Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h, André Berkoff.
Eh bien, aujourd'hui, la liberté, vous savez, Paul Éluard, sur les murs, sur « J'écris ton nom, liberté, liberté ». Mais qu'est-ce qui se passe avec la liberté? Eh bien, il se passe qu'on est en train de créer des lois, encore des lois, toujours des lois, en train de sortir de lois sur la liberté de la presse et sur la protection des sources. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce chaudron sulfureux qu'est Internet pour lutter contre la cyber-haine, la haine numérique. Mais en attendant, est-ce qu'on ne va pas essayer de renier sur nos libertés? Non. Est-ce qu'on va pas trouver une manière un peu insidieuse, un peu hypocrite et très enfumeuse de renier sur nos libertés? Eh bien, on en parle.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Bah écoutez, dès qu'on met en cause la liberté d'expression, dès qu'on met en cause, sous quelque prétexte que ce soit, la liberté d'expression, on sait comment ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Et nous allons aussi, dans la seconde partie de l'émission, parler du souverainisme, du patriotisme. Est-ce que ce sont vraiment des insultes ou des gros mots? Allons. À tout de suite.
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
Bougnoul, Niakwe, Raton, Youpin. Kouya, Gringo, Rasta, Rikin. Polak, Hugo, Shinton, Pékin.
C'est l'hymne à l'amour.
Eh oui, c'est l'hymne à l'amour, moelleux, de Jacques Dutronc. Imaginez que cette chanson sorte maintenant, où il dit Gringo, Rasta, Youpin, Shintok, Polak, etc. Mais vous imaginez? Vous imaginez? Aujourd'hui, la haine, il serait quoi? Condamné, il serait déjà en prison, le disque serait retiré de la vente, aucune radio ne le passerait, etc., etc. Alors que c'était évidemment du troisième degré, et Jacques Dutronc, on peut le soupçonner de tout, sauf d'un quelconque racisme ou autre. Eh bien, aujourd'hui, vous savez, c'est ce que Philippe Muret, ce merveilleux écrivain, appelait la cageophobe. Voilà. Islamophobe, xénophobe, homophobe, transphobe, tout ça, voilà. Il n'y a plus que les phobes et on ne peut plus rien dire. Alors, ça va assez loin, parce que moi, je veux bien, vous voyez, actuellement au Parlement, la semaine prochaine, va être discutée par Laetitia Avia lance la loi contre la cyber-haine, c'est-à-dire la haine sur Internet. Et étant entendu, et c'est très important, là, au Sud Radio, parce que ça vous intéresse, ça nous intéresse à tout, à n'importe quel niveau, à quel statut. Donc, ils disent, voilà, avec les plateformes, les YouTube, les Facebook, les Twitter, les Google et compagnie, la haine se déverse sur Internet de façon terrible et il faut arrêter ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Que dit cette loi? C'est très intéressant. Et ils disent ceci, cette loi. Ils disent, voilà, il faudra, si cette loi est passée, hein, n'est pas encore passée, mais elle a toutes les chances d'être passée, étant donné la majorité absolue à l'Assemblée de la République En Marche, le groupe présidentiel. Eh bien, s'il ne retire pas sous 24 heures les appels à la haine, eh bien, si c'est une personne physique, ça veut dire vous ou moi ou quelqu'un, 250 000 euros d'amende. Et si c'est une entreprise, 1,2 million d'euros d'amende. Et ça va plus loin. Si c'est une plateforme mondiale, à la Google, à la Facebook, etc., etc., eh bien, c'est 4% du chiffre d'affaires total et mondial. Vous imaginez, quand vous savez les milliards que se font Google, que fait Facebook, que fait YouTube et compagnie, eh bien, ce sera 4% du chiffre d'affaires total et mondial. Et attendez, ce n'est plus le juge qui décide. Ce sont les plateformes qui devront prendre les décisions. C'est-à-dire que les plateformes ont 24 heures pour décider si tel ou tel appel est haineux, pas haineux, diffamatoire, etc. Mais attendez, on réfléchit un tout petit peu. C'est n'importe quoi. C'est quand même du délire. Jusqu'à présent, effectivement, qui est pour les appels à la haine? Bien sûr qu'il faut sanctionner les appels au meurtre ou les appels à la haine, etc. Bien sûr. Sauf que jusqu'à présent, on portait plainte et un juge s'en occupait. Eh bien là, non. Ce sont les plateformes qui doivent se substituer aux juges. Et donc, tout le monde a réagi, le Conseil d'État, les gens du numérique, etc. Ils disent, attendez, comment vous voulez qu'en 24 heures, on le reçoit des millions d'appels, voire plus? Comment vous voulez qu'on voit, même s'ils ont beaucoup de monde, comment vous voulez qu'on décide et comment on va décider? Or, et c'est ça le problème, c'est que est-ce que ce n'est pas insidieusement, par subterfuge, qu'on dit, eh bien, écoutez, telle personne, il est très gênant, on va supprimer ses propos. Mais comment choisir? Qui met le curseur? Ce sont les plateformes? Qui décide de ce qui est haineux ou pas? Je veux dire, c'est plus compliqué que ça. Alors, par exemple, un exemple avec les trans, voici ce qu'a dit Laetitia Avia, rapporteure de la commission des lois et députée LREM, auteure du projet de loi.
Les derniers mois d'actualité ont pu nous montrer également l'augmentation de comportements transphobes et sur les réseaux sociaux d'une extrême violence. Donc c'est pourquoi je suis favorable à l'objectif qui est celui d'intégrer donc les propos relatifs à l'identité de genre, lesquels relèvent déjà d'ailleurs de la loi de 81, et dans ce souci de bien viser l'ensemble des sujets qui sont dans le champ de ces dispositions d'injures aggravées, je suis favorable aux amendements qui visent donc l'identité de genre, le genre seul n'étant pas, ne correspondant pas en tout cas aux prescriptions de notre droit pénal. Donc c'est un avis favorable à l'amendement de la commission des affaires culturelles et à celui présenté par Monsieur Balanant relatif à l'identité de genre.
Alors l'identité de genre, c'est un exemple. Il y aura tout, hein, l'identité de genre, la communauté, la grossophobie, par exemple. Là, il faudra, voilà, et peut-être, je ne sais pas, l'agoraphobie, peut-être, il y a des choses qui vont être condamnées. Enfin, où va-t-on? Et justement, où se met le curseur? Parce que c'est quand même assez grave, tout ça. On dit, voilà, on va supprimer telle ou telle chose. Et encore une fois, en 24 heures, il faut que les plateformes qui ne sont pas des juges, En fonction de quoi on va décider. Et il y a autre chose aussi. Éric Ciotti, d'habitude mieux inspiré, Éric Ciotti, député Les Républicains, eh bien, lui, alors il sait autre chose. Lui, il veut la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Carrément, il veut la fin de l'anonymat. Écoutez ce qu'il dit.
Nous en avions parlé, vous avez eu des interrogations sur ce point, qu'il conviendrait de mettre fin à l'anonymat, c'est ce que propose cet amendement, en imposant à partir d'un certain seuil qui pourrait être défini par décret du volume d'utilisateurs, qu'il y ait une obligation de déclaration, de vérification de l'identité de la part des plateformes en ligne qui devraient, avant d'ouvrir un compte, Twitter ou Facebook, relever l'identité de la personne qui ouvre ce compte. Et deuxième point, qu'il y ait un engagement de responsabilité de la part de l'utilisateur de ce réseau pour que sa responsabilité soit là aussi connue. Donc je propose par cet amendement la fin de l'anonymat qui est aussi l'occasion de diffuser de façon gratuite des propos haineux totalement insupportables.
Et voilà comment on essaye d'enterrer l'anonymat et le pseudonymat. Parce qu'on ne parle pas que de l'anonymat, si vous prenez un pseudonyme, c'est la même chose. Attendez, messieurs Ciotti, hauts ministres intègres ou anciens ministres, et bon appétit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Moi, je vais vous dire, le quidam, la personne, c'est quoi Internet? Il serait temps qu'ils entrent dans le regard d'Internet, qu'ils ne considèrent pas Internet comme leur adversaire. Parce que le vrai problème, il est là. C'est que le pouvoir, jusqu'à présent, a été monopolisé par un certain nombre de gens. Internet a dématérialisé ce pouvoir par le numérique et il l'a capillarisé, il l'a transversalisé. Et c'est insupportable à droite comme à gauche pour un certain nombre de gens. Parce que je vais vous dire, moi, Berkoff ou d'autres, on peut donner nos noms, mais imaginez un employé d'une entreprise qui a envie de dire des choses, pas spécialement contre son entreprise ou quoi que ce soit, qui a envie d'exprimer son opinion. Mais si son directeur, mais si son supérieur n'est absolument pas d'accord et apprend que cette personne a des opinions contraires, vous savez très bien ce que c'est que le harcèlement, vous savez très bien comment il peut être embêté, vous savez très bien que beaucoup de gens, des millions de gens, s'ils donnaient leur nom, ils s'exposeraient à des risques qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir, parce que justement il y a des bouches à nourrir, il y a à gagner sa vie, etc. Donc franchement, quand on a une position un peu, je dirais, confortable, dire ah non, c'est fini l'anonymat, alors donc, plus d'expression. Et vous savez, quelque part, faut pas oublier, ça se passe où, ça? Ça se passe en Chine, ça se passe dans l'ancienne URSS, mais en Russie aujourd'hui. Vous savez, Internet, je ne dis pas bien sûr qu'il y a le meilleur et le pire sur Internet. Bien sûr qu'il faut condamner les appels à la haine, mais pas substituer les choses. Et on les substitue, parce que je vais vous donner une autre, Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, il y a encore une autre chose, et tout ça converge vers une limitation de la liberté d'expression. Ils veulent corriger la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Eh bien, elle fonctionne très 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 bien, justement, protection des sources, et s'il y a diffamation, s'il y a attaque, eh bien les juges sont là. Eh bien non. Vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que l'injure et la diffamation quittent les territoires spécialisés de la presse, où il y avait une protection, pour aller, et avec une réaction, pour entrer dans le droit pénal ordinaire. Voilà. C'est-à-dire que si vous mettez un pamphlet, etc., eh bien vous serez jugé comme les autres pénalement. Alors ça veut dire que les lanceurs d'alerte, ça veut dire que les ONG, ça veut dire que les syndicats, ça veut dire que les chercheurs, ça veut dire que quelqu'un qui a dénoncé une entreprise, on va parler de Mediator, on va parler des Paquines, tous les scandales qui ont été dénoncés au niveau des OGM ou de Monsanto, etc., eh bien quoi, on ne pourra plus les faire. Franchement, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose de rance dans le royaume du Danemark. Il y a quelque chose vraiment de la France rancie. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Que ces gens-là qui ne sont pas idiots, qui ne sont pas, réfléchissent. Je sais bien que un pouvoir est toujours tenté vers aller jusqu'au bout de son pouvoir. Je sais bien que il y a toujours cette tentative de dire mais nous avons raison, vous avez tort. Mais là, attention à ne pas franchir des bornes qui vraiment se transformaient contre nous tous et même contre eux.
Vous l'aurez compris, André Bercoff est dans tous ces états. Et vous, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez justement qu'il serait bon d'ordonner un peu tout ça? Les réseaux sociaux, vous avez peut-être été victime de propos violents sur les réseaux sociaux. Ou justement, vous trouvez qu'on risque de tomber dans la censure? Dans tous les cas, vous nous appelez pour nous raconter tout ça au 0826 300 300. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous pouvez aussi réagir sur le Facebook Live de Sud Radio, bien sûr.
Sud Radio, André Bercoff.
Ça balance pas mal.
Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal.
Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire.
Oui, Edith Piaf qui chantait son Légionnaire, une chanson aussi mythique évidemment. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un, ce qu'on appelle un fait divers, mais très triste en fait. Voilà, c'est un ancien Légionnaire qui a quitté l'armée il y a 5 ans, qui plaide la légitime défense en 2014. Il était avec sa fiancée, sa compagne, il était accosté par un dealer Gare du Nord à Paris. La discussion avait dégénéré, le dealer avait sorti un couteau et poignardé à la main le soldat qui avait réussi à arracher l'arme des mains de son agresseur. À la suite de l'affrontement, l'agresseur s'était effondré pour décéder quelques heures plus tard à l'hôpital des suites d'une blessure à la cuisse. Alors, Diller était connu des services de police, était en fuite pour se soustraire aux conditions de l'aménagement de sa peine. Il avait déjà été condamné pour violence avec arme. Alors, c'est la question de la légitime défense. Alors, on dit oui, mais écoutez, la victime, effectivement, il s'est arraché, et puis voilà, il y a eu bagarre, et il a été blessé à son tour par le soldat, et il est mort. L'avocat du soldat ne dit pas du tout, pas du tout. L'accusé a volontairement porté un coup de couteau à la cuisse de sa victime. Et ce que dit l'avocat du Légionnaire, il dit ceci. Il s'étonne aujourd'hui de la difficulté à faire reconnaître la légitime défense. Avec la légitime défense, on a parfois l'impression qu'il faudrait l'appliquer avec tellement de rigueur qu'elle ne s'appliquerait jamais. Franchement, si elle ne s'applique pas ici, on ne sait pas quand elle pourrait s'appliquer. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cas. On ne comprend pas. Attendez, on est là. Personne n'a rien demandé. Vous êtes là avec votre compagne, votre compagnon, etc. On vous agresse, on vous tape dessus, on sort une arme, etc. Eh bien, écoutez, si vous réagissez au-delà de ce qu'il faut aussi, eh bien, ce n'est plus de la légitime défense. Mais franchement, il faut savoir qui commence. Vous savez, je me rappellerai toujours de cette phrase formidable d'Alphonse Karr. Alphonse Karr, c'est un c'est un humoriste du siècle dernier, il disait déjà, je suis contre la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. Quand vous faites agresser avec un couteau, avec une arme, etc., alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment qu'il y a un risque, mais qui a commencé? Qui a commencé? Alors il ne s'agit pas de dire, eh ben, permis de tuer, bien sûr que pas. Mais enfin, quand même, la légitime défense, oui, la défense peut être légitime. On peut protéger ses proches et soi-même, et c'est tout à fait normal, et c'est même souhaité, à mon avis.
Et ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook Live. Thierry Cahuzac nous dit « La censure est déjà bien installée, elle fait son nid douillet sur notre liberté et sur nos droits. » Et puis on a Jacques Seller qui, lui, n'est pas d'accord. Il dit « Si Macron, c'est la dictature, alors qu'est-ce que c'est, la Corée du Nord, un gentil camp de vacances ?»
Oui, évidemment, on n'a jamais dit que Macron c'est la dictature, ce serait idiot. Ceux qui disent que Macron c'est la dictature, c'est idiot. Ce qu'il faut, à quoi il faut faire très attention, c'est la tentation, justement, de verrouiller. Et encore une fois, sur quels critères verrouiller quand on donne 24 heures aux plateformes qui remplacent les juges? Je rappelle que c'est ça le problème, c'est qu'on appelle les plateformes numériques à remplacer les juges.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les trans des chiens et du chien. Je dirais en substance, ceci touche pas à la poussière d'ange, angel dust en chien ou en chien. Zéro.
Casser la gueule au dealer, oui, disait Serge Gainsbourg. Effectivement, bravo aux parents d'élèves qui forment chaque jour une chaîne humaine en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, pour protéger symboliquement l'école Hugo Balzac du trafic de drogue. Parce que on sait ce que ça devient dans énormément de villes de France, dans énormément de quartiers. Le trafic de drogue, c'est devenu quoi? C'est devenu pratiquement une institution. Et voilà, et personne ne fait rien, et on n'arrive pas à faire, et c'est très 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 compliqué. Eh bien, des élèves, des centaines d'élèves se retrouvent confinés par mesure de précaution dans leur classe pendant plus d'une heure, enfermés dans leur classe parce qu'il y a des guerres. Il y a vraiment les habitants de quartier nord de Saint-Denis, ils en peuvent plus, il y a un trafic de drogue endémique. Et il y a les chauffeurs, vous savez, ceux qui préviennent. Ils disent, on n'en peut plus, eh bien voilà, les parents se sont mobilisés, et les parents doivent se mobiliser. Encore une fois, si on ne fait rien, on n'aura rien. Alors on attend des renforts de police, mais encore une fois, bravo à une chaîne humaine de parents d'élèves, et j'espère qu'ils feront tous comme ça, que tous feront pour se défendre contre cette espèce de mort lente. Et de mort quelquefois, hélas, rapide.
En même temps, quand l'État ne remplit plus ses fonctions régaliennes, on peut commencer à s'inquiéter. Et c'est le cas d'André Berkoff, qui est dans tous ses états de 12h à 13h. Et dans quelques instants, André Berkoff reçoit deux invités, Andrea Kotarak et Georges Kuzmanovic, pour parler du souverainisme. On posera la question, le souverainisme peut-il dépasser les frontières partisanes? À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
À l'heure où l'on entend beaucoup dans un discours dominant, ce n'est plus la gauche et la droite, ce n'est même plus la France d'en haut et la France d'en bas. Il faut opposer les progressistes aux souverainistes ou alors aux nationalistes. Hein. Un gros mot ou pas, etc. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui au fond? Qu'est-ce que ça veut dire le patriotisme? Qu'est-ce que ça veut dire le souverainisme? C'est quoi la nation? On est vraiment au cœur du problème. D'un côté, la mondialisation, avec ses avantages incontestables et ses inconvénients non moins contestables. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'enracinement? Qu'est-ce que c'est que la patrie, si elle existe? On en parle.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et on en parle, André Berkoff, avec vos deux invités. Andrea Kotarak, qui est conseiller démissionnaire LFI, conseiller régional démissionnaire LFI. Vous vous êtes illustré sur BFM, notamment en appelant à voter pour la seule liste souverainiste qui met en avant l'indépendance de la France et qui est le mieux à même de faire barrage à Emmanuel Macron. Il s'agissait de la liste Rassemblement National. Et puis, nous sommes avec Georges Kuzmanovic, qui est président du mouvement République Souveraine.
Alors justement, bonjour à vous deux. Georgi Kuzmanovic, on s'est vu gare Saint-Lazare il n'y a pas longtemps dans un Berkov dans tous les états, et on avait déjà abordé ce problème, c'était lors du 6 juin, hein, le débarquement, et qu'est-ce que ça voulait dire et ce qui se passe. Alors, effectivement, il faut quand même en parler, je voudrais quand même... et vous avez suivi des chemins tout à fait différents, mais je voudrais dire quand même que vous avez tous les deux appartenu à des degrés divers. Vous étiez porte-parole des Français internationales de Jean-Luc Mélenchon, Georgi Kuzmanovic, vous étiez conseiller général de la France insoumise. Vous avez tous les deux appartenu donc à la France insoumise, que vous avez quittée pour des raisons... On va pas épiloguer longtemps sur les raisons, mais quand même, je voudrais quand même vous demander, au fond... À vous deux, Georgi Kuzmanovic, pourquoi vous avez quitté la France Insoumise ?
Bah, vous me posez quand même la question.
Oui.
Bon. Écoutez, la campagne présidentielle de 2017 a été l'occasion pour Jean-Luc Mélenchon, qui menait la France Insoumise, d'incarner une ligne populiste. Lui-même avait théorisé la rupture, pas complète, mais du clivage gauche-droite. Et pour ce qui est des positions régaliennes, oui. Donc de géopolitique et de défense, en tant que responsable de ces questions-là, j'avais dirigé une publication à la Revue des France Nationales, ce que ne fait plus aucun parti, qui s'intitulait « Pour un nouvel indépendantisme ». La couverture en était le Charles de Gaulle, que survolaient les Alpha Jets de la Patrouille de France, dessinant un drapeau bleu-blanc-rouge.
Ah oui, c'était assez clair.
C'était parfaitement clair pour ceux qui avaient la difficulté de lire les textes qui sont dedans, qui sont très intéressants, et qui mettaient spécifiquement les catégories comme la nation, la patrie, sur le devant de la scène, et d'une manière qui a été beaucoup... qui a été dans l'histoire passée, celle de la gauche. C'est plutôt la gauche contemporaine des 30 dernières années qui a oublié son propre...
Oui, la gauche originelle, passé, c'était plutôt ça, c'est clair.
Et
alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ça s'est un peu... ça s'est étiolé après les législatives de 2017. Ça a été abandonné au profit d'un retour au clivage, justement, gauche-droite, en vue des élections européennes, considérant que les élections européennes sont des élections où ne votent que des européistes, qu'ils soient... libéraux ou progressistes, si ce mot a un sens quelconque, oui. Et donc de se permettre des rapprochements avec telle ou telle organisation de gauche, je pense au PS, les Verts, d'où le choix de Manon Ombry qui incarne cette position-là.
Oui. Elle même vient de là.
Et donc il y a eu un étiolement de cette idée de l'indépendantisme, cette idée de la souveraineté.
Et ça a été mal reçu, votre publication ?
Laquelle ?
Celle de, où on voyait les Alpha Jets sur le Charles de Gaulle.
Mais c'était très bien reçu, puisqu'on a fait 20%.
Ah oui,
en fait,
quand même.
Non, mais ça a été très mal reçu par des forces d'extrême-gauche qui étaient entraînées, qui suivaient le sillage de la France insoumise, et dont certains ont été élus, qui après ont chamboulé partiellement la France insoumise sur ces questions-là. Mais ça a très très bien marché, au point que ça a beaucoup inquiété ceux qui, en face, je pense spécifiquement au Rassemblement National, se sont dit, mais mon Dieu, ils nous tapent dessus, ils nous marchent sur les plates-bandes avec intelligence.
Mais alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez, c'est cette ligne populiste que vous avez trouvé qui ne correspondait pas à votre réalité, à vos souhaits?
Non, mais c'est que la ligne populiste a été abandonnée, et surtout les questions de souveraineté ont été de plus en plus abandonnées. Et très concrètement, c'est des positions sur l'Union européenne qui ont radicalement changé. Il y avait un plan A, plan B, on ne va pas refaire toute l'histoire ici, ça sera ennuyeux et trop long, mais c'était simple. Le programme de 2017 était clair comme l'eau de roche, c'est cette Europe, on la change ou on la quitte. Voilà. Plan A, plan B, pour ceux qui ont un petit... Comme la couverture, ceux qui sont un peu... qui ont la flemme d'aller plus loin, c'était assez clair. Bah, maintenant, c'était cette Europe... on en discute ou on en rediscute. Plan A prime.
D'accord.
On a bien vu que personne ne comprenait rien. Même les cadres de la France Insoumise étaient bien en peine d'expliquer quelle était la position de la France Insoumise lors des européennes sur l'Europe.
Et on a vu la suite. Alors, André Cotarac, vous êtes effectivement ancien conseiller régional, LFI de Auvergne. Vous avez démissionné. Alors, pourquoi vous avez démissionné ?
Écoutez, M. Berkoff, D'abord pour vos auditeurs et puis pour vous, simplement pour dire que je connais très bien Georges Kuzmanovic, qu'on est amis, et j'ai réfléchi à savoir quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Ben, savez-vous que ce n'est pas ni au KGB, ni dans une réunion politique.
Je croyais, moi.
C'était lors d'une mission de service d'ordre où on assurait, ironie du sort, la protection rapprochée de Jean-Luc Mélenchon en février 2012. D'accord. Ensuite, on a eu, effectivement, vous l'avez répété, je ne vais pas redire ce qu'a dit Georges, une mission plutôt politique qui était celle d'une sorte de protection rapprochée de la pensée mélenchoniste, la pensée républicaine, souverainiste, patriote. Et là-dessus, force est de constater que sur cette seconde mission, on a échoué. On a échoué, et d'ailleurs, ce que j'avais dit chez Rutel Krief s'est avéré vrai, puisqu'aujourd'hui, on a une majorité de militants gauchistes qui ne partagent plus du tout cette pensée mélenchoniste. J'avais dit que Mélenchon était minoritaire au sein de son mouvement et ultra-minoritaire à gauche. Ça s'avère être vrai, puisqu'aujourd'hui, Clémentine Autain, qui est une simple députée, demande même la tête de Jean-Luc Mélenchon. On ne demande pas, quand on est simple député, la tête du fondateur du mouvement,
parti, ouais.
Si on sait qu'on est tout seul. Or, elle sait qu'elle est majoritaire au sein du mouvement. Et donc, avec Georges, nous avons décidé de quitter sur des chronologies différentes.
Pas majoritaire chez les militants de base ou chez les sympathisants.
Beaucoup sont partis, puisqu'on sait qu'à la France Insoumise, ce sont des clics qui font que vous êtes militant.
Ouais.
On dit qu'il y en a 560 000. D'ailleurs, j'étais au départ responsable des clics et du nombre de clics. On sait qu'aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par on ne sait combien.
Alors, André Cotarac, juste, qu'est-ce qui vous a fait aller vers, justement, en disant, au fond, le souverainisme aujourd'hui est plus représenté par Jordan Bardella et enfin la liste Rassemblement National que ailleurs?
C'est plutôt simple, c'est-à-dire que j'ai constaté que le clivage gauche-droite n'existait plus. On a constaté que sur des réformes comme les retraites, qui sont quand même assez fondamentales pour les Français, c'est Nicolas Sarkozy de droite qui a entamé la découpe. C'est François Hollande qui a rallongé le nombre d'années de cotisation. Et aujourd'hui, on va le voir très prochainement, probablement à l'automne, un Emmanuel Macron qui va complètement enterrer le système solidaire français. On constate sur l'assurance chômage que Emmanuel
enterrer,
Macron...
Enterrer, peut-être vous y allez un peu fort, non?
Si, la logique est complètement différente. On avait une solidarité nationale entre les actifs qui payaient effectivement les retraités. Aujourd'hui, on va avoir un système individualiste par points. Et donc, effectivement, non seulement on rompt avec la solidarité nationale, mais on rompt aussi avec ce sentiment de se dire... on vit dans un seul et même peuple et on est solidaire entre nous. Donc on rompt clairement avec cette vision-là et on va vers le mondialiste. Et effectivement...
Juste pour aller dans votre sens, vous avez vu cette merveilleuse perle d'Aurore Berger qui a dit, au fond, les retraités, bon, ils ne devraient pas parler parce que ce n'est pas l'avenir. Quoi.
Mais c'est ça, en fait, la logique d'En Marche, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous êtes actif, vous existez. Quand vous n'êtes plus, vous n'existez plus. Ça vaut pour les chômeurs, ça vaut pour les retraités. Je suis frontalement opposé à cela. Et on constate, de l'autre côté, c'est plus intéressant, c'est peut-être là qu'on se différencie avec Georges. Emmanuel Macron a eu génie de fusionner ses arrière-grands-parents, à savoir le Parti Socialiste et l'UMP. D'ailleurs, ils sont toujours vivants, mais...
Moi, je
regarde de l'autre côté, c'est-à-dire quelles sont les convergences de ceux qui ont voté non au TCE en 2005. Tous les cadres de la France... Au traité de constitution européenne en 2005.
On le rappelle.
Tous les cadres de la France Insoumise aujourd'hui nous expliquent et commencent toutes leurs phrases en disant Marine Le Pen est notre opposé, Marine Le Pen est notre contraire. Moi, je constate que sur les points fondamentaux, il n'en est rien. Sur les autoroutes, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen sont d'accord envers et contre tout. Sur l'OTAN, sur les sanctions contre la Russie, sur les aéroports de Paris, sur le RIC, sur les gilets jaunes, sur l'interventionnisme à l'étranger, en Libye, en Syrie, en Serbie, sur la politique économique, Alstom, Belfort, Florange. Et je constate surtout aujourd'hui, incontestablement, enfin, heureusement ou malheureusement, mais en tout cas incontestablement, Georges Kuzmanovic, les chiffres le montrent, et l'étude remarquable de M. Fourquet le montre dans le Figaro, c'est que c'est aujourd'hui Marine Le Pen qui incarne le camp du non en 2005. Le nom de gauche, le nom de droite, le nom des Français, le nom de ce que vous voulez, mais ce nom-là, c'est localiste, comme ils disent, face
au mondialisme. Celui dont les Français avaient voté 55%.
C'est Marine Le Pen.
Et sur lequel on s'était assis. Juste une pause et on reprendra avec Georges Kuzmanovic.
On en reparle, oui, tout à l'heure, de souverainisme avec Andrea Kotarak et Georges Kuzmanovic. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et on retrouve pour ce face-à-face dans un débat passionnant sur le souverainisme. Le souverainisme peut-il dépasser le clivage gauche-droite? C'est la question qu'on pose. On retrouve Andrea Kotarak, qui est conseiller régional LFI et démissionnaire. LFI, c'est la France insoumise. Et Georges Kuzmanovic, président de République souveraine.
Alors justement, revenons peut-être, on va quitter les affres du mélenchonisme, ou en tout cas les interrogations shakespeariennes ou sous-shakespeariennes. Et on va parler effectivement du souverainisme et du patriotisme. Moi, je voudrais vous demander, parce que c'est vraiment quelque chose, on en parle, mais je crois que beaucoup de gens ne comprennent absolument pas ce qu'il y a derrière ces questions. C'est-à-dire, ou c'est un gros mot, quelque part, ou c'est un motif de fierté, ou c'est ceci ou cela. C'est-à-dire, il y a une espèce de confusion, et j'aimerais que chacun d'entre vous, Georgie d'abord, répond peut-être à Andrea Kotarak, et puis déboucher sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2019, pour les Français, pour parler de ça, mais pour les autres aussi, d'être souverainiste, patriote.
Bon. Alors avant de répondre à cette question qui est centrale, centrale dans le clivage politique actuel, une rapide réponse à ce qui a été dit tout à l'heure par Andrea Kotarak. Et si j'ai largement critiqué l'abandon de la ligne souverainiste à la France insoumise, ça n'est justement pas pour dire que celle qui l'incarne le mieux serait Marine Le Pen et le Rassemblement National. Je trouve justement qu'eux aussi manquent de sérieux. Et ce que j'ai critiqué quand j'ai critiqué Mélenchon et la France insoumise, c'est tout à coup ce manque de sérieux par rapport à cette thématique qui est centrale. Le Rassemblement National l'a manifesté de nombreuses fois au Parlement européen en faisant des votes pas très clairs par rapport à ses positions sur des défenses d'éléments de souveraineté, sur des votes pour ou contre le CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada qui ouvre totalement en particulier notre pays, en particulier sur l'agriculture. C'est une incompréhension. Que va-t-elle faire que va-t-elle faire pendant la présidentielle à rencontrer Poutine, que va faire l'actuel président français à New York et à Washington. La rencontre avec Bannon, qui est quelqu'un qui incarne la destruction de l'État et donc de l'État social. Or le problème, c'est que pour revenir à la question centrale, et c'est là que pour expliciter, qu'est-ce que c'est que le souverainisme ou qu'est-ce que c'est la souveraineté?
Parce que Trump est souverainiste, lui. Trump est souverainiste et patriote. Mais, franchement.
Oui, il est dans la logique états-unienne, c'est-à-dire que celle qui était celle d'Obama.
Ah, oui.
Obama est ultra patriote. Si. Quand vous allez à West Point, imaginez que vous ayez un président de la France qui va à Saint-Cyr.
Ouais.
Et à Saint-Cyr, il dit la France est la nation utile. Alors on est pas loin du fascisme en fait. La nation utile. La dernière fois qu'il y avait une nation utile, ça a mal fini en Europe. C'était il y a 75 ans. Bon, mais c'était Obama. Et les présidents américains n'hésitent pas à dire des trucs de ce genre. Donc
c'est ils sont dans une tradition américaine. Ouais.
Voilà, ils sont dans une bonne tradition américaine et ils le manifestent avec force armée à travers toute la planète. Donc la question de la souveraineté et où se pose où il y a ce clivage, où il y a ce combat politique, c'est, je reviendrai à ce que le grand penseur Karl Polanyi a appelé la grande transformation. On est dans une situation où, pour utiliser des gros mots, le capital, les forces économiques, mais importantes, on ne parle pas évidemment des petits patrons, des boulangeries, les grandes multinationales,
multinationales
et surtout
etc.
les banques et les énormes conglomérats financiers comme par exemple Goldman Sachs, se sont détachés des États et ont un intérêt radical à la disparition du dernier frein à leur puissance absolue sur la planète. Et ils le font à coup d'organisations supranationales, l'Union européenne en est une, de traités, le traité de Lisbonne en est un, d'accords de libre-échange qui parlent très peu de liberté et très peu d'échanges commerciaux, mais surtout de mainmise hégémonique de multinationales sur le commerce mondial, et plus la politique, puisque le CETA ou les accords de libre-échange qui sont négociés imposent des tribunaux d'arbitrage qui auront plus de force que les États.
Que les États, oui, bien sûr.
Et là, on arrive au vrai clivage gauche-droite, puisque le vrai clivage gauche-droite, c'était alors à la Révolution française, c'est ceux qui étaient à gauche, de l'hémicycle, qui étaient pour la souveraineté populaire totale, et ceux qui à droite étaient pour le veto du roi. Eh bien, on a une nouvelle droite, c'est ceux qui sont contre la souveraineté populaire, qui s'expriment bien ou mal, peu importe, les gens votent pour des représentants qui font des lois, ce sont des lois nationales. Eh bien, ces gens-là s'opposent à cela, et ils attaquent par plusieurs angles. C'est comme une coalition de gens qui veulent détruire l'État et la nation. Vous avez ceux qui sont néolibéraux, ex-PS, ex-LR, qui se sont retrouvés sous la bannière de La République En Marche et qui, effectivement, on est entièrement d'accord, ravage et va ravager encore plus le droit social en France. Vous avez les atlantistes qui jettent l'héritage gaullien et sont pour une inféodation totale géopolitique aux États-Unis. Ça se voit aussi très clairement. Mais c'est aussi à gauche ceux qui se sont nourris et imprégnés de multiculturalisme anglo-saxon et qui ne comprennent pas que ça détruit la spécificité française
qui est une nation. La gauche anti-identitaire, alors que la gauche devrait être identitaire.
Mais c'est ça. Mais une nation, la République est une et indivisible. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et puis aussi, ceux qui sont droitistes, ceux qui ont des éléments au Rassemblement National, qui ont... qui aime bien l'époque de Pétain, qui aime bien Dru à La Rochelle, qui... Mais si, c'est compliqué.
Personne n'y croit.
Oui, mais Le Pen est allée en Estonie pour parler avec Ecke. Ce sont des fanatiques d'extrême droite.
Non, mais ça, c'est
revenir. Bon, bref.
Non, attends, juste, on va demander à André que tu as répondu.
En tout cas, c'est là qu'il y a le clivage.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, le clivage, on va en parler peut-être encore plus subtilement que ça. Et c'est vrai que, Georges, juste un moment, c'est que évidemment, on peut rappeler toujours la réduction à Hitlerum, mais elle est plus vraiment.
Non, c'est pas une réduction à Hitlerum. C'est une réduction de manque de professionnalisme. Vous avez quelqu'un qui Marine Le Pen, qui parle. Et là, je peux vous le dire, je suis d'accord. Pourquoi pas? Puisque on défend la même chose, Mélenchon défend la même chose. Il faut rompre les alliances avec l'OTAN, se rapprocher de la Russie. Mais le même jour où elle dit ça, le même jour, et on la taxe d'être pro-Poutine, pro-russe, elle va en Estonie avec le parti RQ, qui sont pour le coup des néo-nazis, et dont l'un des objectifs est de déclencher une guerre sainte avec la Russie. Où est la logique?
Moi, je pense que Georges Kouzmanovitch doit aller au bout de sa logique. Parce que dire que la seule différence qu'on a, c'est l'exemple de l'Estonie, qui représente certainement 1% du PIB européen, en disant « c'est notre grande différence, on ne peut pas y aller ». Moi, je me souviens que j'ai invité deux fois Georges Kouzmanovitch, il ne pouvait pas y aller, c'est vrai, dans le Donbass, en Ukraine, où j'ai constaté sur les lignes de front, en face de nous, côté ukrainien, des forces paramilitaires, notamment les bataillons Azov, de petits nazillons, et on a constaté avec effroi la situation où il y a des nazis qui sont aujourd'hui en guerre sur le continent européen. Qui était à côté de moi? C'était pas Clémentine Autain, c'était pas Georges Kouzmanovitch puisqu'il pouvait pas venir, c'était Thierry Mariani, c'était deux conseillers régionaux du Rassemblement National. Donc accuser à chaque fois le Rassemblement National d'être Hitler-homme ou je ne sais quoi, ça suffit. Moi je retiens simplement une idée extrêmement intéressante et à laquelle je suis totalement en accord avec Georges Kouzmanovitch. Il dit dans Marianne, il faut construire un consensus de tous les patriotes authentiques attachés à la République, à la solidarité nationale, dans l'esprit du Conseil National de la Résistance. Bah, pardonnez-moi, quand un gaulliste comme Thierry Mariani me tend la main, je la prends. Et effectivement, je travaille à l'indépendance de la France. Et effectivement, je travaille à la sortie de l'OTAN. Et effectivement, je travaille. D'ailleurs, pardon, mais sur les chiffres, encore une fois, c'est même pas un argument pour moi, c'est des statistiques. Encore une fois, le camp du non, 47% de la classe ouvrière qui vote pour Marine Le Pen. On dit qu'elle est antisociale, c'est bizarre. On dit qu'elle est raciste, c'est bizarre. Elle est en tête à Vaux-en-Velin, là où j'étais candidat aux législatives, alors qu'ils étaient derrière moi en juin 2017. Elle est en tête à Vénissieux, elle est en tête dans l'Outre-mer. On dit qu'elle est anti-républicaine, là encore, pardon, mais moi j'ai une grande vision du peuple français, un peuple hautement politisé, profondément républicain. Et le peuple français la place à nouveau en tête aux élections européennes. Donc je crois vraiment qu'il faut pousser la logique. Juste un petit point sur l'identité. Et je pense que peut-être que là, on diffère avec Georges Kouzmanovitch. J'ai relevé dans un magazine serbe, Georges Kouzmanovitch, une interview où il explique, à juste titre comme souvent...
Vous le suivez jusque dans les magazines serbes.
Pardonnez-moi, j'ai la chance de le parler et de l'écrire, donc j'ai réussi à le déchiffrer. Il dit dans le titre, la France a été construite de la même manière que l'ex-Yougoslavie. Ce qui est totalement vrai, unité, fraternité, etc. Là où je pousse Georges Kouzmanovitch à réfléchir, c'est moi, j'ai pas envie que mon pays, la France, explose comme l'ex-Yougoslavie. Et pardon, mais oui, il y a la crise économique, oui, il y a des influences étrangères, mais il y a aussi une sorte de dictature des minorités nationales. Mmh. Il y a un fondamentalisme islamiste, puisque Ben Laden était en 92 en Bosnie-Herzégovine. On parle des djihadistes français qui reviennent de Syrie, mais pardon, les premiers djihadistes français qui sont revenus, ils étaient de Bosnie, c'était le gang de Roubaix.
D'ailleurs,
ils ont tué, ils ont braqué.
Pas faire de réduction à Hitler, mais j'ai un moment, c'est que les Waffen-SS organisées par l'imam étaient toutes bosniaques.
Oui, bosniaque et même albanaise. Donc même si on a envie, justement, j'en profite, que Fontainebleau ne devienne pas Zagreb et que la Seine-Saint-Denis ne devienne pas le califat mafieux du Kosovo, eh bien ma foi, il faut prendre position et j'invite Georges Kouzmanovitch à prendre position pour Marine Le Pen et à ne pas rester dans le confort de l'abstention.
Alors, que répondez-vous, Georges Kouzmanovitch, à cette invitation
fraternelle et amicale
sur ce radio?
Je crois justement que j'ai eu suffisamment de problèmes au sein de la France insoumise pour m'être opposé, pour dire clairement les dangers qui ne sont pas, les seuls, mais les certains dangers de la progression de deux partis islamistes en France. Donc bon, je n'ai aucun problème avec cette question. Par contre, non, encore une fois... voilà. Avec un certain nombre d'amis, nous avons créé un mouvement qui s'appelle République Souveraine.
Alors c'est quoi ? Je veux dire, qu'est-ce que vous préconisez ?
Une rupture du clivage gauche-droite, et surtout définir à quoi sert la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, elle sert à construire la République sociale. C'est-à-dire, en fait, la vraie souveraineté, il y a une France d'en haut, qui rejoint tous ces multinationales, toutes ces grandes banques, dont l'objectif est justement la destruction de la nation, parce que la nation est le cadre protecteur des citoyens depuis le Conseil national de la Résistance. Et là, il y a quelques faiblesses du côté de Mme Marine Le Pen et du Rassemblement national, quand, par exemple, ils ne sont pas pour l'augmentation du SMIC, ce qui est un peu absurde dans le cadre.
Ce que nous souhaitons,
c'est une question de méthode. Et passons ces querelles politiciennes. La question de méthode, c'est il faut prendre ces questions de souveraineté sérieusement et les travailler très sérieusement. Si vous êtes un homme politique moyen, mais que vous allez dans le mainstream général, vous pouvez être médiocre, vous pouvez être un morin et finir ministre de la Défense en ne connaissant rien du tout, mais même pas les grades dans une armée, vous suivez le flow général et puis vous appliquez plus ou moins bien, avec plus ou moins de brio, les politiques imposées par l'Union Européenne. Mais si vous voulez changer la société, la révolutionner, la retourner, que vous soyez du RN ou de la France Insoumise, vous allez faire de facto une révolution dans le système, avec une opposition d'une grande partie de la haute administration. Vous ne pouvez pas le faire juste avec des phrases, avec des imprécisions et avec de l'amateurisme. C'est ce que j'avais aimé à l'époque à la France Insoumise et Andrea Cotoracusi. C'était le plan B, c'était le début du plan B, le travail sérieux sur « mais comment on fait si réellement il fallait sortir ?» Et tout ça se prépare. Et nous, ce que nous faisons et ce que nous incitons les autres à faire, c'est, en tout cas, sur ceux qui veulent défendre la souveraineté et le peuple français, c'est de travailler sérieusement à un programme et les moyens de le mettre en œuvre.
On va revenir avec vous, mais en fait, moi, je retiens deux choses. D'abord, que vous êtes d'accord tous avec notre grand timonier, le président Mao, à savoir que la révolution n'est pas un idée de gala, même si ça se passe pas comme la révolution culturelle. Et puis, deuxièmement, c'est vrai, ceux qui opposent les anywhere et les somewhere, comme disait en Amérique, ceux qui sont de quelque part et ceux qui sont de n'importe où. Andrea Cotarac, juste un mot. Un mot. Vous avez su la ligne Bardella. Enfin, vous avez su Rassemblement National.
Bah écoutez, Giorgi Kuzmanovic parlait de méthode. Je crois qu'aujourd'hui, Marine Le Pen représente bien plus que le Rassemblement National, puisque M. Mariani n'est pas membre du Rassemblement National. Moi-même, je ne suis pas membre du Rassemblement National. Cette grande famille-là est incarnée incontestablement par Marine Le Pen.
Et on continuera la discussion.
Merci André Berkoff, merci à nos invités. On vous retrouve demain avec un invité exceptionnel, hein, Jacques Lang, à l'occasion de la fête de la musique. Et tout de suite, les clés d'une vie, Jacques Pessis reçoit Olivier Hébert. À tout de suite.